Chapitre 12. À l'approche de la citadelle, des sentinelles repérèrent les six voyageuses et alertèrent les soldats de la première phalange. Au lieu d'accompagner les femmes, Chasseur se fondit dans les ombres. Lorsque Callan et ses compagnes eurent franchi l'arche d'entrée du mur d'enceinte, elles se trouvèrent face à un groupe d'hommes armés jusqu'aux dents. À la lueur des torches, on voyait parfaitement la tension de ces soldats, qui disparut dès qu'ils eurent confirmation que Callan était de retour et de nouveau sous leur protection. Tandis que les voyageuses avançaient dans la cour pavée, d'autres hommes aux cheveux mouillés par la pluie accoururent vers elles.
« Mère inquisitrice !» s'écria le lieutenant Pfister en levant une main. « Que les esprits du bien soient remerciés. Vous revoilà parmi nous. »
Épuisé après le long voyage de retour à travers les forêts des terres noires, Callan se contenta de saluer l'officier de la tête. Sachant qu'une nuit difficile les attendait, ses compagnies et elle, une longue conversation lui semblait une épreuve insurmontable. Mieux valait se concentrer sur ce qu'il allait falloir faire. Tandis que le tonnerre grondait dans les montagnes, Pfister se plaça sur un flanc de l'inquisitrice. Après quelques pas, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que personne ne pouvait l'entendre et demanda
« Qui est la femme que vous avez amenée ?»
Callan écarta sa capuche pour jeter elle aussi un coup d'œil derrière elle. Pour se protéger de la pluie, Nietzsche, Rouge et les morts de Sith avaient elles aussi relevé leur capuche. Dans la pénombre, et avec ça sur la tête, on ne distinguait rien des traits de la voyante. Même si celle-ci n'avait rien dit sur le sujet, Callan savait que les femmes comme elle étaient éprises de secrets. Rouge ne devait avoir aucune envie qu'on la dévisage.
« C'est une voyante !» souffla Callan, se penchant vers le lieutenant. « Si vous voulez mon avis, il vaut mieux rester loin d'elle. »
Pfister tourna encore une fois la tête, très brièvement, puis il regarda droit devant lui.
« Des problèmes en mon absence ?» demanda l'inquisitrice.
« Les habitants de Saavedra s'inquiètent de voir des troupes d'Aran chez eux. Pour eux, nous sommes des fauteurs de troubles. »
« Pourquoi pensent-ils ça ?»«
Parce qu'il y a aussi des demi-humains dans les environs. »
Callan prit Pfister par la manche, le forçant à s'arrêter.
« Des demi-humains ? Combien ?»«
Pas une grande force, je crois. La preuve, ils n'ont pas attaqué la citadelle. »«
Et où ont-ils frappé ?»
demanda Nietzsche en rejoignant l'inquisitrice et l'officier.
« Dans un secteur excentré de la ville. Ce n'est pas une troupe organisée, mais une bande de charognards qui écume les terres noires. Il y a eu plusieurs attaques, mais toujours dans le plus grand désordre. » La dernière est celle que je viens de mentionner. Entendant des cris, plusieurs de nos hommes sont allés voir ce qui se passait. Deux demi-humains s'en prenaient à un couple de personnes âgées, mais mes gars les ont vite taillés en pièces.
Et le vieux couple ?
Pfister secoua tristement la tête.
C'était trop tard pour ces pauvres gens. Si on se fie à l'aspect miteux des deux demi-humains qui ont déboulé chez eux, c'était des chasseurs solitaires.
Callan sonda les environs, mais ne vit rien d'inquiétant.
S'il s'était agi de forces envoyées par Sula Khan et Anis Arc, il n'y aurait pas eu seulement deux agresseurs.
Très juste, approuva Nietzsche. Selon Richard, il existe plusieurs genres de demi-humains. Les guerriers d'Anis Arc sont des Shuntuk, mais il y a d'autres variétés de prédateurs. Et depuis que la grande porte du troisième royaume est ouverte, ajouta Callan, ils se sont tous lancés dans la nature en quête d'âme. Il fallait faire quelque chose contre la folie qui déferlait sur le monde. S'il n'était pas déjà trop tard, seul Richard en serait capable. Et s'il ne revenait pas, tout le monde connaîtrait la triste fin du vieux couple.
« Pour éviter les mauvaises surprises, » dit Pfister, « j'ai posté des hommes partout en ville. Nous avons averti les habitants au sujet des demi-humains. Il est toujours préférable de savoir la vérité. »«
Toujours, oui. » « Où est le corps de Richard ?»«
Dans la chambre du dernier étage, là où vous nous avez dit de le déposer. »«
Et vous n'avez laissé entrer personne ?»«
Non, mère inquisitrice. J'ai posté des hommes dans la chambre, et bien entendu, ils me permettent d'entrer. Sinon, les étages supérieurs sont interdits aux domestiques. La citadelle est sous notre contrôle. »
Callan faisait une confiance aveugle aux hommes de la première phalange. Pour avoir combattu avec eux, elle connaissait leur loyauté et leur dévouement à Richard. Mais il y avait d'autres dangers. Par exemple, elle connaissait très mal les domestiques qui avaient passé leur vie au service d'Anis Arc. Même s'il semblait content d'être libéré de son joug, il était encore trop tôt pour se fier à eux. Il y avait aussi Samantha, la jeune magicienne qui voulait se venger de Richard. Pour commencer, elle avait transpercé le cœur de Callan avec une lame. Se souciant avant tout de sa femme, le sorcier avait laissé s'enfuir la meurtrière. Si bon qu'il soit, les soldats n'avaient rien pu faire contre une magicienne aussi puissante. Des colosses armés jusqu'aux dents ouvrirent la porte à deux battants qui donnaient accès au hall de la citadelle. Des lampes et les flammes qui crépitaient dans deux cheminées illuminaient la grande salle, mettant en valeur les somptueux tapis aux vives couleurs, les riches tapisseries, les fauteuils et les sofas foncés et les tables basses en acajou qui les flanquaient. Partout, l'odeur agréable de la fumée couvrait presque de méchants relents d'humidité. Sur les balcons intérieurs, des soldats gardaient des couloirs et des portes fermées. Dans la galerie, des hommes patrouillaient en permanence entre les colonnes. La nuit, les tentures tirées ajoutaient à l'atmosphère pesante. Quelques femmes en robe grise, un tablier autour de la taille, attendaient au pied du grand escalier double. À première vue, tout semblait paisible, mais les menaces foisonnaient. Sans même parler de l'état de Richard, cette tension sous-jacente minait Callan. Alors qu'elle s'engageait dans le grand escalier, lui aussi solidement gardé, Nietzsche se pencha pour lui souffler à l'oreille.
« Tous les hommes doivent quitter le dernier étage. »«
Tout l'étage? Tu es sûr ?»«
Oui. »
L'inquisitrice ne demanda pas d'explication.
« Vous avez entendu, lieutenant? Que tous les hommes se retirent, vous compris. Nous prendrons soin de Richard. »
Pfister jeta un coup d'œil à Rouge qui précédait les trois morts de site dans l'escalier. Quand il croisa le regard bleu perçant de la voyante, il blêmit et tourna vivement la tête.
« Compris, mère inquisitrice. Soldats, précède-nous et ordonne aux hommes de sortir de la chambre et de nous attendre dans le couloir, puis fais évacuer le reste de l'étage. »
L'homme se tapa du poing sur l'épaule et gravit les marches 4 à 4. Mal à l'aise, Pfister se gratta la tête.
« Si je puis demander, mère inquisitrice, que comptez-vous faire auprès du seigneur Rall ?»
Callan réfléchit un instant, pas question d'en dire trop.
« Ce que nous pourrons, »
éluda-t-elle. À dire vrai, elle ne savait pas trop elle-même. Sur le chemin du retour, Nietzsche était resté fermé comme une huître, refusant d'évoquer ce qu'elle allait devoir faire. Comme Callan, les morts de Cité Rouge n'avaient pas semblé avides de savoir comment une sœur de l'obscurité se comportait vis-à-vis du royaume des morts. Quelle que soit la réponse, Nietzsche crevait d'angoisse et c'était bien la première fois que Callan voyait ça. Déconcertée, elle avait préféré la laisser à ses sombres pensées. Deux hommes de la première phalange, armés d'une pique, gardaient la porte de la chambre devant laquelle Callan s'arrêta. Le dernier étage étant bien chauffé, de la sueur brillait sur leurs biceps impressionnants.
« Il n'y a plus personne dans la chambre, mère inquisitrice. »
Callan remercia le soldat d'un signe de tête.
« L'étage est vide ?»
demanda Nietzsche.
« Oui, il n'y a plus que nous deux. »« Dans ce cas, » dit Pfister, « retirons-nous, soldat. »
Évitant de regarder Rouge, il se tourna vers Callan et ajouta
« Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous serons en bas. »
Quand les six femmes furent entrées, Cassia referma la porte puis entreprit de monter la garde avec ses collègues, garantissant que personne n'essaierait d'entrer. Selon Pfister, il n'y avait rien à craindre de ce côté-là, mais les morts de site se fiaient très rarement aux affirmations de ce genre. Posé sur une table, un grand chandelier supportant une quinzaine de bougies et une lampe éclairait la tapisserie, l'image d'une forêt dense et obscure qui occupait tout un mur de la chambre. Chaque fois qu'elle la voyait, Callan repensait à la forêt de Heartland où elle avait rencontré Richard des années auparavant. Derrière l'unique fenêtre, les ténèbres régnaient sur le paysage environnant. Un épais tapis couleur rouille étouffant le bruit de ses pas, Callan approcha du lit à baldaquin couvert d'un épais carré de tissu bleu-vert au liseré d'or. Les voilages, coupés dans le même matériau, conféraient au lit des allures d'antique temple. Le cadavre de Richard y reposait, comme si on l'avait préparé pour être exposé au public. En un sens, c'était bien le cas. Au pied du lit, Callan s'immobilisa et baissa les yeux sur le mort. Le cœur battant la chamade, elle tituba bouleversée par cette vision. Rouge abaissa sa capuche, libérant sa chevelure rousse.
« Je peux le toucher ?» demanda-t-elle d'une voix très douce.
Craignant que sa voix tremble, Callan se contenta d'acquiescer.
Rouge approcha et posa une main sur le front de Richard. Sans un mot, elle prolongea ce contact un moment.
« Pour sentir la peau du mort, supposa Callan, et utiliser son don pour vérifier que le corps était bien préservé par la magie noire. » Quand elle eut fini, la voyante alla se camper devant la fenêtre et contempla la nuit. Callan s'assit au bord du lit.
« Je suis de retour, »
murmura-t-elle des larmes aux yeux. Elle prit une main du défunt entre les siennes.
« Nous venons à ton secours, Richard. Sois fort !»